Stop, c'est parti.
Mais non, c'est pas la télé.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes m'intéressent.
You are fake news.
Hello.
Mais quel drôle de début de mandat avec cette loi qui n'arrive pas. Roch-Olivier Maistre a été nommé président du CSA en février dernier, dans une période de transition où l'audiovisuel français attend sa réforme. Voulue et promise par l'État, seulement voilà, les décisions ne sont pas encore prises. Le texte est sans cesse repoussé, or le CSA en a besoin pour étendre ses pouvoirs et réguler enfin les contenus propagés par les géants du web. Bref, le CSA attend, les télés attendent, les radios attendent et tous les acteurs de la création audiovisuelle attendent. Il n'y a que nous, Radio France et France Télévisions, qui savons le montant sévère des économies à réaliser. Pour le reste, mystère. Ce qui n'empêche guère les dossiers brûlants de s'empiler sur le bureau de Roch-Olivier Maistre. Temps de parole, bataille du Canal 14, avenir de Canal+ et du cinéma français. Il y aura des décisions à prendre avant qu'une loi ne soit enfin votée.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour à vous tous et bonjour Roch-Olivier Maistre.
Bonjour Sonia de Villers.
Soyez le bienvenu Monsieur le Président. Je précise que vous étiez magistrat à la Cour des Comptes et même depuis peu président de Chambre et rapporteur général de la Cour des Comptes. Vous avez été nommé en février, prenant la suite d'Olivier Schramek qui a quitté cette instance en déclarant, je le cite, « J'ai découvert un milieu où beaucoup sont guettés par l'égotisme, le cynisme et l'amour immodéré de l'argent. » Alors vous le connaissiez ce milieu et vous y êtes retourné quand même.
Écoutez, moi j'ai consacré ma vie à la culture et à la communication, même si j'ai alterné entre les chiffres et les lettres pendant mon parcours.
Nous c'est les chiffres ou c'est les lettres ?
Il y a un peu des deux,
il y a un peu des deux
pour la culture et la communication. Et oui. Moi c'est un univers que j'aime beaucoup et je suis extrêmement heureux dans ces fonctions. J'ai la chance d'être dans une institution solide avec un très bon collège. Profil complémentaire, des personnalités qui s'entendent bien, une administration tout à fait compétente, et je suis frappé de voir combien cette institution, 30 ans après sa création, est solidement installée dans le paysage. Tous les acteurs se tournent vers nous de façon très spontanée.
Justement, alors on va en parler, parce qu'il n'y a pas que les acteurs qui se tournent vers vous, il y a aussi les téléspectateurs, les citoyens, les Français lambda. J'ai deux questions sur l'actualité très récente, Monsieur le Président, de l'audiovisuel, puis ensuite on va en venir justement à cette fameuse réforme. D'abord Christine Angot dans l'émission de Laurent Ruquier.
Le but avec les Juifs pendant la guerre, ça a bien été de les exterminer, c'est-à-dire de les tuer, et ça introduit par exemple une différence fondamentale, alors qu'on veut confondre, avec par exemple l'esclavage l'esclavage des Noirs.
Dans une interview donnée hier au journal du dimanche, Laurent Ruquier déplore que, je cite, « quelques dizaines de signalements au CSA suffisent aujourd'hui à ce qu'une émission soit sanctionnée ». Je précise que ces propos de Christine Angot ont suscité autour de 5000, c'est ça, plaintes de téléspectateurs ?
Alors écoutez, je ne me prononcerai pas sur l'affaire puisqu'on est saisi, on va l'examiner. Et
Vous allez l'instruire.
On l'instruira, voilà. Donc on ne se prononce pas sur les affaires qui sont en cours. Ce que je voudrais dire de façon plus importante, c'est que la fonction du CSA, ce n'est pas uniquement une fonction de gendarme. Et si vous regardez nos chiffres, d'ailleurs, vous verrez qu'on sanctionne en réalité relativement peu, parce que heureusement on a un paysage qui est composé d'acteurs responsables qui connaissent les règles et qui sont très attentifs. Sur les procédures de sanction, ce qu'il faut bien voir, c'est que nous devons en tant que régulateur toujours trouver le juste équilibre entre la liberté de communication, qui est l'article premier de la loi de 86. La communication est libre dans ce pays. C'est l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Je rappelle qu'en 86, vous étiez conseiller technique, justement,
auprès du ministre de la
communication, et que vous avez été artisan de cette loi.
Le Conseil constitutionnel a rappelé à plusieurs reprises que la liberté éditoriale, elle est consubstantielle à la démocratie. Donc, il y a une tradition de polémique dans ce pays, et cette polémique, elle est libre. Mais, en contrepartie de cette liberté, le législateur a fixé une série de principes dont nous sommes les gardiens. Le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de la jeunesse et de l'enfance, la juste représentation de la société, la place des femmes dans nos médias audiovisuels. Et donc, quand ces principes sont transgressés, eh bien, le législateur nous fait devoir d'appliquer les sanctions qui sont prévues par les textes. Donc voilà, nous sommes toujours dans cet exercice-là.
D'où la question que vous demandez aux chaînes de prendre en compte comme principe et d'appliquer, et de ce que vous ne pouvez pas demander et attendre des réseaux sociaux. On va en parler dans quelques minutes, puisque pour l'instant, vos pouvoirs ne sont pas encore étendus. Autre sujet d'actualité, nous sortons d'une campagne électorale quasi, un peu, parfois aberrante, 34 listes. Je vous propose d'écouter Benoît Hamon et Yann Brossat.
Vous êtes trop bon, Monseigneur Macron. 4 minutes 23, c'est le temps de parole que nous accorde le CSA à l'occasion de ces élections européennes.
Bonjour France 2, je vous présente Taillot. Il paraît qu'il faut avoir un chat pour avoir les honneurs de France 2, puisque ce soir, dans l'émission politique, il y a un reportage sur Marine Le Pen et ses chats. Et on apprend qu'elle a eu 4 chatons ce week-end. C'est vrai que c'est intéressant.
34 listes, des médias qui s'arrachent les cheveux pour respecter le temps de parole, des candidats qui saisissent les tribunaux administratifs pour imposer à des chaînes de télévision leur présence à des débats. Quelles leçons en tirez-vous ?
Première observation, Sonia De Villers. C'est le pluralisme, c'est la première mission que la loi donne aux régulateurs. Mmh. Au moment où cette loi de 86 est bâtie, je rappelle que le service public a le monopole de la télévision.
Oui.
Et à l'époque, donc, on ouvre ce monopole à des acteurs privés puissants, avec notamment la privatisation de la première chaîne qui est devenue TF1. Mmh. Et donc, le souci du législateur...
On peut rappeler hein, que vous avez vu naître TF1, que vous avez vu naître M6, que vous avez vu naître la 5.
Et oui, c'était au siècle dernier,
voilà,
ça paraît très
exactement.
Loin. Merci de le souligner, mmh. Sonia De Villers. Non, ce que je voulais dire, c'est que le législateur, le souci qu'il avait à l'époque, c'est que du fait de cette ouverture et de l'entrée de nouveaux acteurs très puissants, il fallait garantir le pluralisme et l'équité du débat démocratique. C'est la même problématique que pour la presse écrite après-guerre, au moment où on a réorganisé la distribution de la presse avec les NMPP. Et la vraie réussite de ce régulateur, c'est que le pluralisme a été garanti depuis 30 ans et l'équité du débat démocratique s'applique. C'est des règles que nous surveillons hors période électorale et en période électorale.
Mais là, on voit bien que c'était quasi intenable,
oui,
à 34 listes.
C'est très compliqué, ça a été très compliqué pour nous aussi, parce que les règles de calcul des temps de parole pendant les campagnes officielles sont redoutablement précises, fixées par le code électoral. Mais quand je regarde le constat, il n'y a pas eu de dérapage. Le pluralisme a été parfaitement respecté. Si je regarde les chiffres de France Inter...
le système en
place ? Non, j'ai dit que nous ferions un retour d'expérience. Donc, on va recevoir toutes les rédactions prochainement pour avoir leur retour. Parce qu'on sait que c'est compliqué pour elles, à 34 listes.
Ah bah ça.
Évidemment, très compliqué.
Ouais.
On entendra également les formations politiques pour voir s'il y a matière
à adapter. Et vous êtes pour le maintien d'une trêve médiatique 48 heures avant le vote, sachant que pendant ce temps-là, on enregistre des pics d'activité phénoménaux sur les réseaux sociaux, où là, les messages sont toujours plus virulents, parfois véhiculant des mensonges que plus personne ne peut contrecarrer.
Bah écoutez, votre observation nous amène très naturellement à la nécessaire régulation des réseaux sociaux.
Oui, mais en attendant, vous demandez une trêve médiatique aux médias.
C'est pas nous, c'est la loi.
C'est la loi. Et ça, vous êtes pour que ça change ?
Non, je pense que c'est une bonne règle.
C'est qu'une
effectivement,
bonne règle.
Que la campagne, à un moment, s'arrête et que l'électeur prend le temps de la réflexion avant de mettre son bulletin dans l'urne.
Bien, monsieur.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Voilà, Roch-Olivier Maistre, président du CSA, invité de France Inter. Quelques dossiers clés, urgents et épineux sur votre bureau. Je rappelle que le CSA a ce pouvoir d'attribuer une fréquence de diffusion à une chaîne. C'est un grand pouvoir, c'est aussi beaucoup de responsabilités. Le gouvernement a décidé de supprimer France 4 et France O, qui vont devenir des sites internet. France 4 libère un canal sur la TNT, le canal 14. Alors, il y a eu la guerre du canal de Suez, et ben il va y avoir la guerre du canal 14. Parce que le canal 14, il est juste avant BFM, chaîne numéro 15, juste avant CNews, chaîne numéro 16. Qui va prendre sa place à France 4? Évidemment, les chaînes d'infos qui sont tout au bout de la TNT, LCI et France Info le veulent. Et puis Alain Veil, le patron de BFM, a dit alors là, ça, jamais. Comment vous allez vous y prendre?
Écoutez, Sonia De Villers, je vois bien là votre capacité d'anticipation et de vous projeter dans l'avenir, mais on est quand même encore loin du but.
Loin que ça, mais c'est pour bientôt.
Je rappelle que dans les arbitrages du Premier ministre de l'année dernière, le calendrier évoqué était l'automne 2020.
Mmh.
2020, je dis bien.
Bah, c'est l'année prochaine.
Vous échappez en bonne observatrice qu'il y a quelques débats sur l'évolution de France 4 en ce moment. Donc, tant que l'État n'a pas fait connaître au CSA l'abandon de cette fréquence n'est pas disponible. Le jour où elle le sera, on appliquera les principes et les règles qui sont en vigueur. Il y a deux préoccupations pour le CSA. L'intérêt du téléspectateurs. Mmh. Il faut que la numérotation des chaînes soit logique et cohérente pour qu'on ne se perde pas sur sa zapette à chercher les chaînes, d'une part, et d'autre part, avoir un traitement équitable vis-à-vis des opérateurs. Donc on cherchera une solution consensuelle, autant que possible, en fonction des demandes que les acteurs exprimeront. Et puis après, on prendra notre décision. Je suis tout à fait serein sur le dossier.
Alors, autre fréquence à attribuer, et là, vous pouvez pas me dire on a le temps, parce que là, ça y est, c'est officiel, c'est sur votre bureau, le dossier est ouvert. Celle de Canal+. Russe. Voilà, son autorisation de diffuser arrive à échéance en 2020. Décidément, 2020, c'est la bascule. Hein. C'est vraiment la bascule dans l'audiovisuel français. C'est une première dans l'histoire de notre paysage audiovisuel. La réattribution d'une fréquence comme ça nationale, c'est un enjeu énorme. C'est un enjeu énorme, pourquoi ? Parce que si Canal+ n'est plus cette chaîne de télé qu'elle est, alors Canal+ peut être revendu dès le lendemain matin à des Chinois ou à des Américains. Et puis aussi, on va revoir du tout au tout les financements accordés par Canal+ au cinéma français. Voilà, c'est ouvert. Et si Canal+ n'est pas candidat à sa propre succession ?
Alors, première remarque, donc effectivement, l'autorisation de Canal+ arrive à échéance fin 2020, décembre 2020. Ouais. Et donc, nous sommes tenus, de par la réglementation en vigueur, de gérer le processus d'appel à candidature sur une assez longue période, puisqu'on doit dans un premier temps, et c'est ce qu'on a engagé la semaine dernière, opérer une consultation publique, c'est-à-dire interroger les acteurs sur le marché de la TNT pour avoir leur regard. On aura le retour de ce questionnaire et de cette consultation un peu après la mi-juillet, donc on analysera. Ensuite, on doit faire une étude d'impact pour voir, en fonction des choix qu'on opère, quelles conséquences ça a sur le marché. Étude d'impact qui, elle aussi, est soumise à candidature, à débat public. Et puis ensuite, l'appel à candidature stricto sensu. Donc on a quand même beaucoup de temps devant nous, mais c'est pour ça qu'on commence maintenant.
Et si Canal+ n'y va pas?
Écoutez,
qu'est-ce qui va se passer?
À ce stade, d'abord, on ne peut pas préjuger de ce qui va se passer, bien évidemment, puisque la procédure s'ouvre. Je constate que les dirigeants de Canal+, à plusieurs reprises, y compris son actionnaire principal, a fait connaître à plusieurs reprises qu'il serait candidat à sa propre succession.
Et si Canal+ y va avec un projet qui ne tient pas la route? C'est ce que redoutent beaucoup, beaucoup de gens concernés directement par ce dossier.
Dans ses attributions de fréquence, le CSA regarde toujours l'équilibre des projets, notamment l'équilibre économique. Si on fait ces appels, ces consultations public et ses études d'impact, c'est parce que nous sommes aussi une régulation économique, de s'assurer que les projets qui nous sont soumis et l'autorisation qu'on va délivrer tiennent la route dans le paysage tel qu'il existe aujourd'hui. Donc je ne doute pas que les candidats qui se présenteront, et notamment Canal+, présenteront un dossier solide.
Bien, bien. On vous sent extrêmement confiant derrière cela. Il y a là une question absolument majeure, celle du rôle que tiendront à l'avenir les chaînes et nos télévisions telles qu'on les connaît dans le financement de la création. Mercredi se tiendra au CSA justement un colloque réunissant toutes les têtes pensantes et dirigeantes de l'audiovisuel qui s'intitule « Médias, liberté et création ». En réalité, c'est les 30 ans de l'instance que vous dirigez. Nous sommes à l'aube d'une réforme de l'audiovisuel, majeure ou pas. Ça, pour l'instant, on n'en sait rien. La loi est en préparation. Alors, d'un côté, il y a des plateformes, voilà, type Netflix, Amazon, qui sont très riches, de plus en plus puissantes, qui ne payent pas leurs impôts en France et qui se déploient sur notre territoire avec très peu de contraintes. De l'autre, il y a des chaînes historiques qui se disent entravées par les obligations et les réglementations auxquelles elles doivent se soumettre. Vous, vous êtes pour qu'on leur laisse un petit peu d'oxygène, hein, à ces opérateurs historiques. Je vais vous poser des questions très simples, Monsieur le Président. Pour ou contre des films de cinéma à la télévision le samedi soir ?
Je suis pour la levée des jours interdits de cinéma. Je pense que cette
Le mercredi, le samedi soir.
Je pense que cette réglementation est totalement obsolète à l'heure des plateformes de partage de vidéos.
Et je rappelle que vous avez été médiateur pendant très longtemps du cinéma et que vous avez siégé au conseil d'administration du Festival du Cannes, où vous connaissez bien ces sujets. Du coup, pour ou contre des films de cinéma diffusés à la télévision et disponibles en replay, ensuite, exactement comme on a en replay, en rattrapage, des documentaires, des séries ou des jeux télé si on les a manqués?
Alors, c'est un point sur lequel, à ce stade, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne s'est pas prononcé, donc il n'y a pas eu de délibération du collège sur le sujet, ce qui fait que je préfère réserver ma réponse sur ce point, mais on aura l'occasion de s'exprimer dans le cadre du projet
d'accord.
de loi.
D'accord. Pour ou contre l'autorisation accordée aux chaînes françaises de faire de la publicité ciblée? C'est un petit peu technique et complexe, la publicité ciblée, mais par exemple, ça pourrait permettre à Canal+ de ne pas diffuser les mêmes pubs à ses téléspectateurs selon qu'ils habitent Marseille ou Tourcoing.
Alors, comme vous le savez, la publicité média, aujourd'hui, elle est en train de vivre un moment de bascule, comme le reste du paysage, puisque Internet, et singulièrement les GAFA, Google et Facebook à titre principal, absorbent maintenant une part prépondérante de ce marché publicitaire, ce qui assèche les ressources pour les acteurs du marché domestique et notamment les acteurs privés. Donc je pense vouloir redonner de l'oxygène à ce secteur a du sens. En même temps, je connais bien, vous l'avez dit, un certain nombre d'autres secteurs, celui de la radio d'une part, celui de la presse écrite d'autre part. La radio a besoin de ressources publicitaires pour vivre.
Et là, vous parlez de toutes les radios locales, qui justement, le supermarché de Tourcoing, s'il commence à avoir des pubs ciblées à la télé, il y en aura moins dans la presse quotidienne régionale et dans les radios locales.
Donc le CSA, sur ce sujet-là, a dit qu'il était favorable à une ouverture de la réglementation, parce qu'il faut redonner probablement un peu d'oxygène. Mais quand on le fera, autant que faire se peut, avoir des études d'impact préalables et peut-être des expérimentations pour s'assurer de ce qu'on fait. Mais je pense que la publicité ciblée viendra à un moment ou un autre.
Viendra à un moment, de manière inéluctable, en réalité.
Il me semble.
Très bien, je vois où vous voulez en venir. En fait, est-ce que c'est un énorme problème pour vous, pour le Centre National de la Cinématographie, pour le ministre de la Culture même, le fait qu'au fond, l'Élysée n'est pas tranché, que on ne sait pas où va cette loi audiovisuelle qui a été sans cesse retardée. Est-ce que tout le secteur, qui est un secteur majeur en France, qui a un poids économique et évidemment une influence culturelle majeure, tourne à vide en ce moment, en attendant ce texte?
Écoutez, c'est pas tous les jours qu'on réforme l'audiovisuel. Vous avez la gentillesse de rappeler que j'avais vécu la loi de 1986, qui effectivement avait connu un cheminement très rapide. Puisqu'en 86, je crois que le second tour des élections législatives s'était tenu le 17 mars, et la loi a été promulguée le 30 septembre. C'était une loi très, très importante. Qu'on se donne le temps d'analyser les choses au fond pour une loi qui sera ambitieuse, puisqu'elle portera sur la régulation, sur la réglementation et notamment la transposition de la directive européenne sur les services médias audiovisuels, qui à mon avis est fondamentale.
Fondamental.
C'est le cœur de la réforme et c'est celle-là qu'il faut transposer au plus vite. Et puis ensuite sur l'audiovisuel public, qu'on se donne un peu de temps, ça me choque pas. Le Premier ministre a annoncé dans son discours de politique générale que ce texte viendrait à l'Assemblée début 2020, ce qui veut dire qu'on devrait connaître le projet de loi pour un passage en Conseil des ministres avant la fin de l'année, enfin dans le courant de l'automne, de telle sorte que le CSA puisse donner son avis sur ce texte, puis examen par le Conseil d'État.
On dit que le Premier ministre s'invite au colloque de mercredi.
Le Premier ministre viendra clore le colloque. Le colloque sera ouvert par le ministre de la Culture. Nous avons également.
C'est un signe.
Écoutez, je pense que,
l'exécutif prend enfin en main cette loi, cette réforme.
C'est à la fois un signe de reconnaissance de l'institution et des succès qu'elle a enregistrés depuis 30 ans. Je crois que c'est un régulateur qui a fait la preuve de son utilité et de son efficacité. Et en même temps, je pense que c'est l'occasion pour eux, ministre de la Culture comme Premier ministre, d'affirmer leur volonté de faire entrer notre audiovisuel dans le monde numérique.
En
adaptant notre réglementation.
Justement. Olivier Schramek, votre prédécesseur, avant de partir, disait en règle générale, en parlant de son poste au CSA, j'ai été un Gulliver empêtré. Qu'est-ce que vous êtes face aux géants du web? Qu'est-ce que vous êtes face au contenu propagé par les réseaux sociaux? Vous avez dit, tous ces principes auxquels vous êtes très attachés et que vous demandez aux chaînes de télévision d'appliquer. Qu'est-ce que vous êtes face à eux? Finalement, pour l'instant, rien tant que la loi ne vous donne pas les moyens. Rien du tout.
La loi commence à nous donner des choses.
Mais presque rien.
Elle a commencé déjà avec la loi de décembre de 2018 sur la lutte contre la manipulation de l'information, qui, pour la première fois, nous a amené, nous, CSA, à rencontrer toutes les plateformes numériques, à formuler une recommandation à leur égard que nous avons sortie avant l'élection, la campagne des élections européennes.
Mais c'est une relation de confiance, c'est déclaratif.
C'est une autre forme de régulation. On ne peut pas appliquer à ces acteurs exactement les mêmes règles que celles qu'on applique aux médias traditionnels.
Oui, mais pas d'injonction. Pas de sanctions.
Oui, mais on va avoir un deuxième texte qui va venir, comme vous le savez, au mois de juillet, qui est une proposition de loi portée par la députée Laetitia Avia qui, elle, nous donnera un pouvoir de sanction. Donc c'est un texte qui portera,
sur les propos haineux.
Et puis, nous allons avoir surtout le projet de
des
loi.
Des amendes financières.
Une amende importante, puisque ça porte pour aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc c'est loin d'être négligeable. Et puis on aura surtout la loi que vous avez évoquée, qui permettra de transposer cette fameuse directive SMA, qui va nous permettre de faire rentrer dans le champ de la régulation ces plateformes de partage de vidéos, et notamment Netflix, à qui on va pouvoir dorénavant imposer des obligations de financement, comme on le fait sur les médias traditionnels pour le financement du cinéma et de la production audiovisuelle.
Et donc, en attendant, Google, Facebook, Twitter.
Oui, par petites touches, on rentre dans la sphère numérique.
Mais il serait temps, non?
Je viens juste de prendre mes fonctions, donc moi je ne peux que me féliciter en l'espace de quelques mois d'avoir mettre en œuvre la loi sur la manipulation de l'information, très prochainement la loi sur les contenus haineux, et très prochainement aussi la nouvelle loi audiovisuelle sur la régulation.
Allez, on se dépêche. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Merci de votre invitation.
Roch-Olivier Maistre, invité de France Inter.